Il est présentement 13h06. Vous êtes à l'antenne de l'émission On en jase sur Boulevard 102. On a de la très, très, très belle visite en studio. C'est l'animateur du show qui suit.
Oui, moi, je suis
contente. Le retour de Gravel, moi aussi. Moi, j'ai la chance de discuter avec Denis à chaque matin.
Ouais, c'est ça. Me le voler avec le petit stop le matin.
C'est vrai, fait que là, vous avez des retrouvailles.
Oui, puis j'avais beaucoup de fun avec Dan.
Moi aussi, j'ai bien
pour le rendre à l'aise. Moi, j'aime ça, travailler avec toi, Dan. Je sais que toi, non, mais moi, j'aime ça.
Ben quoi, ça en fait au moins un, tu sais.
Oui, c'est ça, ça en prend. Pascal, c'est vrai, dis-nous donc, pourquoi on accueille Denis Gravel? Qu'est-ce qui va se passer à soir à 19h, son bonhomme?
Entre autres, c'est vraiment le fun ce qu'ils ont décidé de faire, la gang du retour. Puis je pense que ça va devenir un des plus beaux rendez-vous qu'on va avoir à Boulevard 102.1 parce que c'est commencé. Mais il y a le nouveau podcast original qui s'appelle Les grands événements de Québec. Et c'est tous les lundis, 19h. Donc, c'est un podcast qui est consacré à ce qui a marqué la ville de Québec en histoire. Puis pour chaque épisode, on revisite des moments clés, mais avec des témoins puis des acteurs de première ligne, ceux qui l'ont vraiment vécu, qui étaient là, qui ont envie d'en reparler parce qu'on veut comprendre ce qui s'est passé, on veut apprendre aussi ce que la ville a aussi appris de ça et comment les événements résonnent encore aujourd'hui. Parce que ça se peut que vous ne les ayez pas vécu, ça se peut que vous avez eu les deux pieds dedans, puis en même temps, bien, ça se peut que ça vous serve pour en parler à vos enfants. T'sais, on dit l'histoire, c'est important, ouais. C'est important de la transmettre. Denis, avec ses invités, c'est ce qu'il fait. Puis ce soir, 19h, c'est la diffusion du deuxième épisode. Denis, c'est l'attentat de la mosquée, partie 2. Cette fois-ci avec Taïeb Moala, qui est journaliste au Journal de Québec, qui a couvert l'événement.
On était supposé juste faire un entretien par événement, mais en parlant avec Jeff Racine, l'épisode qui a été présenté lundi dernier puis qui est maintenant disponible sur toutes nos plateformes, il a mentionné à un moment donné que le plus shaké des journalistes qui faisaient la couverture de l'attentat de la mosquée, c'était Taïeb Moala, qui est d'origine tunisienne, qui a même quitté son pays, lui, pour venir au Québec, entre autres parce que des écrits qu'il avait faits là-bas comme journaliste commençaient à déranger les dirigeants de la place. Fait qu'il est venu refaire sa vie ici pour de multiples raisons. Mais on s'est rendu compte aussi que Taïeb Moala a été le premier journaliste à rentrer dans la mosquée après les événements, puis qui avait fait une vidéo pour montrer tout ça. Donc, on a décidé, étant donné que l'événement est quand même marquant et majeur, ben de profiter d'une perspective supplémentaire, puis d'essayer de voir un autre côté ou d'autres observations, parce que, on va se le dire, c'est un contexte quand même particulier pour un journaliste qui vient de Tunisie.
Il y a une sensibilité supplémentaire.
Ben, parmi les victimes, il y avait une victime d'origine tunisienne. Donc, il y avait moyen peut-être de regarder ça différemment. Il y a deux trucs, moi, que je trouve importants dans cette série d'événements-là qu'on a décidé de couvrir. C'est le devoir de mémoire, d'une part, parce qu'on est tellement dans l'instantané qu'on oublie beaucoup de choses. Il y a des gens qui l'oublient, il y a des gens qui le savent juste pas. Et dans les deux cas, je pense que les conversations qu'on a permettent premièrement de se rafraîchir la mémoire pour ceux qui en ont besoin. Et pour les autres, ben c'est peut-être de découvrir ces pages-là d'histoire qu'on a tournées peut-être un peu trop rapidement. Puis l'autre expression, c'est le recul nécessaire, tu sais, de reparler avec des gens qui ont couvert ces événements-là ou qui ont participé d'une façon ou d'une autre à ces événements-là. Plusieurs années plus tard, ben tu sais, l'émotion a peut-être eu le temps de se tasser un peu parce que souvent, on réagit de manière très émotive quand il y a une tragédie, par exemple, à Québec. Mais avec le recul, des fois, on réfléchit un peu plus. Puis c'est ce qu'on a essayé de faire, entre autres, avec l'attentat de la mosquée. Donc, conversation numéro 2 qui est présentée ce soir. Mais on va aussi parler de Denis Lortie au Parlement avec le journaliste à la retraite, Denis Langlois, qui est venu s'asseoir pendant une heure.
J'avais 5 ans et je me rappelle de Denis Lortie. T'sais? Je me rappelle que mes parents, la télévision est ouverte. Puis que c'est ça qui joue à la télé.
Puis, on va parler d'Opération Scorpion avec Roger Ferland, qui est un collaborateur régulier, mon Dieu, depuis que je travaille à Boulevard avec vous autres le matin. Puis je savais qu'à un moment donné, on allait avoir cette conversation-là. Puis j'avais hâte, mais je voulais quand même qu'on trouve le contexte. Mm-hmm. Fait qu'évidemment, quand on s'est lancé là-dedans, la série des grands événements, là, je me suis dit, si Roger, ça y tente de revenir sur cette enquête-là qui était la sienne, l'enquête d'Opération Scorpion, puis il l'a fait avec beaucoup d'émotion. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu en direct, te dirais que personnellement, moi, c'est l'épisode qui m'a marqué le plus là, dans cette première série de conversations-là, parce que Roger est devenu émotif à un moment donné en revenant sur
Quand tu es un enquêteur puis tu commences à découvrir tout ce qu'il y a derrière ce réseau-là et que tu sais que c'est des petites filles qui se font violer et abuser sexuellement.
Dans des atrocités d'histoire, tu sais, c'est pas, c'était pas des petites affaires, puis je dis pas qu'il y a des petites affaires de ce genre d'événement-là, mais plus tu creusais, plus tu te rendais compte à quel point c'était sordide, à quel point il y a des personnalités connues qui étaient encensées, appréciées, qui avaient le côté sombre et criminel, et ça paralysait la ville de Québec. J'étais toute petite, puis je me rappelle de mon père qui essaie de m'expliquer sans tout me dire c'est quoi le fameux collant qu'il y a sur son char, parce qu'il y avait aussi des collants qui avaient été faits pour en appui envers les enquêteurs et tout ça.
Ah, il y avait eu des manifestations, ça avait même brassé dans les palais de justice.
Ah,
les gens étaient en colère, puis je pense qu'il y a une partie de cette colère-là qui était un peu dirigée contre nous-mêmes, dans le sens où ça se passait dans notre ville.
Ben oui.
Puis on le savait pas, puis ça dormait, puis personne n'avait réveillé personne. Il y avait comme un effet de surprise négative par rapport à ça. Puis Roger Ferland, évidemment, est devenu émotif à partir du moment où tu fais cette enquête-là, que tu arrives sur la place publique, qu'on te fait porter un peu l'odieux de ce qui a moins bien été pendant l'enquête, pendant les procès et ainsi de suite. Puis un an plus tard, ben la prostitution juvénile a repris sa place discrètement à Québec. Puis tu te demandes, ben oui, mais t'as tout fait ça.
C'est ce qui est le
qu'est-ce
plus triste,
ça a donné?
Parce qu'il y a encore des petites filles qui vont se sauver de l'escale pour rentrer dans la prostitution. Il y a encore des filles avec les médias sociaux aujourd'hui qui vont dire, ah oui, voici mon prince charmant. Puis
ouais.
Des
gens,
petites filles de 15-16 ans.
Où de qui t'étais sûr qu'il y avait une possibilité d'accusation, puis t'as pas été capable d'aller au fond des choses parce que, bon, la justice, puis comment ça fonctionne, te le permettait pas. Ça doit être très difficile.
Oui, puis je pense que Roger Ferland a eu des années difficiles. Je pense que c'est la première fois qu'il en parle aussi à cœur ouvert. Fait que ça va vraiment être une discussion à ne pas manquer. Sommet des Amériques, le mur qui s'est dressé à Québec.
J'étais sur place quand le mur a tombé. Ouais. J'étais là à titre d'observateur et non pas à titre de manifestant.
T'étais pas dans le Black Bloc, toi?
Non, mais je dois vous dire qu'il y a tellement eu de poivre, de cayenne, de tirer puis de bombes lacrymogènes que les yeux ont pas toffé.
T'as plus besoin d'épicer tes plats.
Ah, c'était l'enfer.
On a eu une super conversation avec Agnès Maltais, qui était non seulement la députée du secteur, mais qui était résidente, elle restait à deux rues du Grand Théâtre, où ont lieu l'essentiel des affrontements. Fait qu'avec Agnès Maltais, on parle du point de vue citoyen, parce qu'elle était sur place, littéralement.
Wow.
Elle a mis des guenilles sur le bas de sa porte pour être sûr que le gaz...
Pour pas que ça rentre.
Oui, exact.
Vrai, j'avais pas pensé à ça.
Non, puis c'est pas tout le monde qui y avait pensé non plus.
Non,
là. C'est ce qu'elle nous raconte. Il y a des gens qui ont été incommodés par les fumées lacrymogènes pendant des jours, même des semaines. Puis t'as le côté politique aussi, parce que de ce qu'on comprend puis de ce qu'elle nous a expliqué, la GRC est arrivée avec ses grosses bottes à Québec, puis... Laissez-nous faire, on va l'organiser, nous autres, la sécurité puis l'histoire du mur et tout ça. Alors que si on avait travaillé avec un peu plus d'ouverture, je pense qu'on est satisfait du travail de la police de Québec, les policiers de la SQ également. Est-ce qu'on les a suffisamment consultés avant d'installer cette stratégie-là? Puis au niveau politique, bien, c'est comme ça que le gouvernement du Québec s'est senti aussi complètement tassé par le gouvernement canadien à l'époque de Jean Chrétien, alors que le PQ, ben Lucien Bouchard venait de partir, puis c'était Bernard Landry qui venait de s'installer.
Vrai.
Fait que c'est vraiment un climat politique particulier. George W. Bush qui débarque à Québec, et on est quelques mois à peine avant le 11 septembre. Fait que c'est vraiment un climat unique dans lequel on s'est replongé avec Agnès Maltais qui nous a fait
quand
le plaisir.
Je pense qu'il y avait un gros climat de contestation aussi contre les pays du G7, les pays du G20.
Oui, parce que les manifs suivaient ces sommets-là un peu partout à travers le monde.
C'était le début du monde occidental qu'on connaît là, vraiment de surconsommation, puis c'était les débuts plus frappants d'Internet puis d'instantanéité. Ouais. Donc, c'est un moment marquant.
Puis à Québec, on avait décidé de laisser un espace de manifestation aux manifestants. En Basse-Ville.
Oui.
Nous autres, on va être en Haute-Ville. On va avoir un mur pour nous protéger. Vous autres, allez vous installer à la table des petits en bas.
Ça n'a pas vraiment fonctionné.
Et faites pas trop de bruit.
Oui, ça n'a pas vraiment fonctionné.
Ça a eu l'effet inverse. Hein?
Ben oui, quand j'ai vu cette marée humaine-là arriver, puis avec les gens du Black Bloc, tout le kit qui était cagoulé et tout ça, là. La première chose que je m'étais dit, c'est « le mur t'offre pas ». Puis comme défaite, il a
troué.
Ah, il a toffé à peu près deux minutes, là, donc...
Vous avez une mission.
Oui, exactement. Et après ça, toute la fin de semaine, la rue Saint-Jean était envahie de manifestants.
Mais ça a marqué énormément parce que même quand je couvrais le G7, là, à un moment donné, il y a quelques années, en tout cas Justin Trudeau et tout ça, il y avait des gens qui, par souvenir du sommet des Amériques, avaient barricadé d'avance leur commerce. Ils avaient fermé leur commerce sur Saint-Jean, entre autres. Il ne s'était rien passé, heureusement, on avait appris de ça. Mais ce que tu as raconté avec Agnès Maltais, qui va passer sur nos ondes dans quelques lundis, là, ça a marqué... Ça a vraiment marqué le pouls de Québec.
Il y a des choses qui ont changé à partir du sommet des Amériques. Ce qu'Agnès Maltais affirme, c'est qu'à partir de ce moment-là, les réunions, ils ont faites dans le bois, puis il y a une raison pour ça.
Oui, exactement. Ben oui, parce que là, on était en plein centre-ville. Ouais. Puis, il y a eu des dégâts. Je te dirais qu'il aurait pu en avoir plus, par
oui,
contre, qu'il y a eu une bonne sécurité. Puis quand tu parlais de l'excellent travail de la police de Québec, moi, je fais juste penser à l'épopée des Carrés Rouges. Comment Québec s'était démarqué en matière de sécurité,
c'est vrai.
En matière d'accompagnement des manifestants. Le droit de manifester existe. Et moi, je suis pour ça, mais ça prend un encadrement. Ça, la police de Québec l'avait bien fait.
Fait que ce soir, l'attentat de la mosquée à 19h avec Taïeb Moala, puis dans les prochaines semaines, vous allez entendre Roger Ferland sur Opération Scorpion. Vous allez entendre Denis Langlois sur Denis Lortie. D'ailleurs, le journaliste Denis Langlois s'était stationné en bordure de l'Assemblée nationale quand il est arrivé pour couvrir. Puis dans ce temps-là, tu n'avais pas de périmètre de sécurité, puis tout, puis à un moment donné, ils sont venus le voir. Ils disent « Excuse, c'est-tu à toi le char? » Il dit « Oui. » Il dit « Ouais, c'est parce que t'es parqué à côté du char de Denis Lortie. Il y a peut-être une bombe là-dedans. Fait que moi, je prendrais mon char, puis j'irais le stationner ailleurs. » Et on va avoir le sommet des Amériques avec Agnès Maltais.
C'est des moments marquants pour la ville de Québec. Good job, Denis Gravel. Franchement, ça va être extraordinaire.
C'est allé un peu vite, l'enregistrement, la préparation de tout ça, mais ça nous a donné le goût d'en faire d'autres. Puis je lance la balle dans les airs. Si jamais il y a des événements positifs ou négatifs, moi, tant que c'est marquant, que vous voulez qu'on prenne le temps de jaser. Tu sais, je pensais entre autres au 400e de la ville de Québec.
400e de la ville de Québec.
Si est-ce qu'on peut interviewer Clotaire Rappeur? Est-ce dans les options?
Si on le retrouve.
C'est ça. Non, mais comment le 400e sort viré de bord rapidement avec l'arrivée de Régis Labeaume? Parce qu'on s'en allait vers un 400e pas très glorieux. Là.
Je vois un Régis Labeaume ou un Daniel Gélina peut-être qui pourrait venir s'asseoir,
jaser
de ça.
Ça serait intéressant avec Daniel Gélina d'avoir les coulisses. Ouais. Parce que c'est plus lui qui a travaillé Paul McCartney, Céline Dion.
Lui, il a été appelé, il était minuit. Moins 5, il s'est fait dire par la bombe, là, moi, j'ai pas un moyen que ça floppe, là, fait que trouve un miracle. Fait qu'il a trouvé McCartney.
Ah non, c'est ça, il a trouvé le miracle, les coulisses de tout ça. Ah, en effet, ça serait vraiment, mais vraiment intéressant.
T'as des suggestions, on est dans cette journée-là, après le week-end, mais comment les Nordiques sont partis?
Je m'en doutais, effectivement. Il y a... Je sais pas, Marcel Aubut en donne-tu encore des entrevues?
Moi, je te le conseille pas.
Ouais, je sais.
Ça te va, là? Mais là, pour être ton
paratonnerre. Mais je sais pas si un Maurice Dumas sortirait de sa retraite pour venir te parler.
Peut-être. Faudrait...
Sur la couverture avec le journal Le Soleil.
Envoyez des suggestions, les amis, puis on va essayer d'en faire d'autres.
Clairement, quand Molson a acheté la hockey.
Ben oui!
On a perdu notre identité. Denis, je t'ai amené aussi pour une autre raison, parce que hier, j'écoutais l'excellent Colosse dans le boulevard du Rock. Et Colosse me dit « Hey! » Il a dit ça aux auditeurs, mais j'ai senti qu'il disait ça à Jeff Fortin. Il a dit « Jeff Fortin, c'est l'anniversaire! Pink Floyd The Wall! »
Je sais pas si tu sais, Jeff, mais l'idée de cet album-là est née à Montréal.
C'est ce que j'ai appris hier de Colosse, mais justement, je voulais que tu m'en dises plus parce que j'ai compris que Roger Waters, en 1977, a craché c'est un fan à Montréal au Stade olympique.
On est à la dernière date de la tournée In the Flesh Tour, la tournée de l'album Animals, juillet 1977 au Stade olympique. Une foule excessivement bruyante que Roger Waters n'apprécie pas. Lui, il essaye de jouer Pigs on the Wing, qui est un petit morceau acoustique de l'album Animals. Et il réalise, il dit, les shows sont tellement rendus gros, les gens écoutent même plus ce qu'on fait. C'est comme s'il y avait un mur entre le spectacle qu'on fait et les gens qui sont dans l'enceinte, qui payent cher pour nous voir. Et pendant ce spectacle-là, justement, il y a un partisan en première ligne qui avait allumé un pétard à mèche et Waters l'avait pris à partie, lui avait craché au visage. Roger Waters avait quitté la scène et après ça, bien, les membres restants de Pink Floyd étaient revenus jammer un blues pendant une dizaine de minutes pour terminer le show sur une note un peu douce, amère.
Il y avait déjà du caractère. Hein?
Oui, et quand Roger Waters est retourné chez lui après ça, ben, il a commencé à penser à cette espèce d'histoire-là d'une rock star qui s'enferme dans ses propres démons, la consommation de drogue, une rupture amoureuse difficile, son père qui est mort à la guerre, la schizophrénie. C'est un mélange des biographies de Roger Waters, qui a perdu son père et son grand-père, respectivement, dans la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale. Et Syd Barrett, qui a été le premier leader de Pink Floyd, qui est devenu fou, que les gars, à un moment donné, ont laissé tomber pour faire entrer David Gilmour au sein du groupe. C'était un show monumental à l'époque, à un point tel que ça coûtait trop cher de le bouger d'un endroit à l'autre. Puis Pink Floyd a été visionnaire. Ils ont fait des résidences. C'est un show qui a été donné dans 5 villes, okay, seulement en Amérique du Nord. Ouais, puis ça a été la même chose du côté de l'Angleterre. Chaque show était rempli de problèmes techniques, de mise en scène qui étaient tellement lourdes parce qu'on construisait un mur sur scène, puis qu'à un moment donné, on le démolissait. T'avais les illustrations de Gerald Scarfe, puis les espèces de poupées gonflables là, de la maman qui était couveuse, de l'ex qui était rempli de venin, du professeur qui se faisait battre à la maison par sa femme, puis qui se défoulait ses enfants à l'école. Et ça a été pas mal le dernier effort de Pink Floyd en tant que groupe, alors qu'il n'y avait plus vraiment de groupe. Il y avait Roger Waters d'un côté et Pink Floyd était devenu des musiciens exécutant la musique, exécutant les ordres de Roger Waters. Les deux seuls crédits d'écriture que David Gilmour a sur cet album-là, ironiquement, c'est pour les plus beaux morceaux, c'est Comfortably Numb et c'est Run Like Hell. Puis cet album-là est devenu un spectacle grandiose. C'est devenu un film aussi. En 1982, réalisé par Alan Parker, un film qui, au départ, devait montrer le spectacle de Wall de Pink Floyd. Puis Alan Parker a décidé d'aller complètement ailleurs, a engagé l'acteur-musicien Bob Geldof pour interpréter le rôle de Pink Floyd. Et finalement, c'est devenu le film d'Alan Parker, parce que vous devinerez jamais ce qui est arrivé. Ben oui, lui aussi s'est chicané avec Roger Waters.
Ah oui, c'est ça. Hein,
qui a de l'air relativement chicanier, là, oui, de façon générale.
Hey, c'est-tu bon, ça?
C'est un album où t'as la plus belle pièce de Pink Floyd, je pense, Comfortably Numb.
Oh, vraiment?
T'as quelque chose de Broadway aussi, dans le côté théâtral de cet album-là. Des moments remplis de sensibilité. Une couple de tune rock bien montée aussi, In the Flesh.
Ah, il fait du bien, ça.
Young Lust. Ah oh, oui, écoute, c'était tout.
Semble...
Puis moi, c'est l'album qui m'a ouvert les portes de la musique.
Oui, exactement.
Je suis passé de Jean Leloup à The Wall, puis ça a été là, une explosion dans ma tête d'adolescent. Là.
Mais on comprend la corrélation, par exemple. On comprend, ça fit.
Oui, c'est ça. Ouais. Passer d'une schizophrénie à l'autre.
On parlait des grands événements de Québec. Avais-tu vu le show sur les plaines, The Wall?
Ben oui.
Hey, moi aussi.
Ben oui.
Mais j'étais là. Pourquoi vous m'excluez de ça?
T'étais là toi aussi?
Moi, c'est mon band préféré. Ah. C'est mon enfance. C'est ça qu'on me dit que la...
20 juillet 2012.
La musique se transmet au niveau des générations.
Ouais.
Moi, ma maison vibrait sur l'ancien système de son de mes grands-parents qui avait offert à mon père, contre des tâches ménagères d'été, qui a ramené à la maison, puis c'était ça qu'il jouait sans arrêt.
Moi, c'est un peu la même chose. Je veux dire, mon père m'accompagnait à mes games puis mes pratiques de hockey, puis c'était toujours du Pink Floyd qui jouait. Mais tu sais, moi, j'écoutais Atom Heart Mother, puis The Wall, puis Wish You Were Here, puis Momentary Lapse of Reason. Ça a été long en tabarnouche avant que je catche que c'était tout le temps le même groupe qui jouait dans le char.
C'est vrai!
T'sais, faire le lien entre toutes ces musiques-là qui sont tellement différentes les unes des autres. Le parcours des années 70 de Pink Floyd est exceptionnel. Pensez à ça. Dark Side of the Moon.
Vas-y.
Wish You Were Here. Animals et The Wall. C'est des albums qui sont tous très distincts les uns des autres. Et on pourrait argumenter que chacun de ces albums-là a été unique et marquant dans la décennie 70, chacun à sa façon.
Je suis très d'accord. Et ça, là, petit bar de chansonnière, 2 heures et une petite beers. Ah! Souvenir de chez son père, des petits flashbacks.
Wish you were here.
Les gars, accroches-tu?
Pas encore.
Ils l'entendent souvent, le band dans la maison?
Non, c'est eux autres qui contrôlent la musique plus que papa. J'essaie un peu de faire des... Ouais.
C'est un band d'adultes, Pink Floyd. Tu sais, parce que moi, je l'ai découvert à l'âge adulte.
Ouais.
Puis moi aussi, mon père en écoutait, mais tu sais, c'est un...
Je pense que ton enfance est bercée dessus selon tes parents. Puis à un moment donné, à l'adolescence, t'es comme dans ta passe sombre, puis tu te mets à aimer ça parce que t'es dans ta tête puis dans tes émotions.
J'ai vu le film The Wall quand j'étais adolescent, puis je me souviens que j'étais tout seul dans le salon chez mon oncle. Tout le monde veillait au feu de camp dehors. Puis moi, j'écoutais ça tout seul. Puis le déluge d'images que je ne comprenais pas avec musique, moi, ça m'a frappé de tous les bords en même temps. J'avais pas tout compris ce qui s'était passé, mais j'avais compris que s'était passé quelque chose d'important. En dedans de moi, Pink Floyd. On a été chanceux d'ailleurs, pour tous les vilains défauts de Roger Waters, le fait d'avoir recréé ce spectacle-là pour une nouvelle génération et même la génération des plus vieux qui n'avait jamais eu accès à la tournée de The Wall, qui n'est jamais passée du côté du Québec. Ça a été un événement exceptionnel. Puis oui, celui sur les plaines qui a été le plus grand mur jamais monté de l'histoire de Pink Floyd.
C'est vrai, t'as raison.
Grâce aux extensions qui ont été faites par des artistes d'ici qui faisaient en sorte qu'on était capable de boucler les plaines à gauche comme à droite. C'est un record qui tient toujours au moment où on se parle.
On est recordman. Yes. Question terminale pour vous deux. Moi, j'avais jamais entendu les plaines sonner aussi bien qu'au show de The Wall. Et à ce jour, je les ai jamais entendus sonner comme ça. Hey, quand l'avion nous a passé au-dessus de la tête en commençant le show, je me disais, crime, je suis dans un aréna, mais non, je suis sur les plaines.
Roger Waters se promène avec ses appareils sonores à lui, et le son quadraphonique que Pink Floyd a inventé à une certaine époque, le son qui se promène nord-sud, est-ouest, c'est encore un peu ces effets-là, mais à la sauce moderne. Un show rodé au quart de tour, ça aurait pu être lip-signé de A jusqu'à Z, tellement ce show-là est droit. Il y a des théoristes qui disent que c'est le cas. Ça. Moi, je me lance pas là-dedans, mais c'est un show impeccable, c'est une pièce de théâtre, c'est un paquet de choses. Puis c'est peut-être le dernier legs de Roger Waters avant qu'il vire complètement crackpot là, sur la politique internationale.
En effet.
Mais d'avoir recréé ces grands shows-là de l'époque de Pink Floyd pour la nouvelle génération, particulièrement à Québec sur les plaines, écoute, c'est un moment marquant.
Le gars a compris que sa musique, ça s'écoute dans une qualité sonore. Il y a des artistes pop en 2025 qui sont le spectacle quand on les voit au visuel. Mm-hmm. Ils font des acrobaties sur scène et tout ça, mais le gars, c'est le son. Ses fans veulent le son.
J'ai eu la chance d'aller voir Pink Floyd au Stade olympique avec mon père en 1994 et ma sœur, parce qu'on est tous des fans de Pink Floyd. Et j'ai eu la chance de revivre le même trip quand The Wall s'est installé sur les plaines. J'ai une photo qui signifie beaucoup de choses pour moi parce qu'à la fin du spectacle, ils ramassent pas toutes les briques à terre. Puis on a réussi à embarquer dans une brique, moi puis mon père. Puis on a une photo où
incroyable.
On est les deux écrasés de rire. Puis c'est un gars chaud qui nous a pris en photo. Là. J'aurais pu jamais revoir mon sel, mais moi puis mon père d'une brique de Pink Floyd, là, ça c'est dur à battre comme souvenir.
En tout cas, on vient de faire triper pas mal d'auditeurs justement. Sébastien qui dit c'est l'album Final Cut, mon préféré. Lisette qui nous dit hey, ma génération, Pink Floyd, ma génération d'amour. Il y a même un auditeur qui dit qu'il y a un nouveau t-shirt d'Ozzy qui pisse sur l'album The Wall.
Ah, c'est parce que Roger Waters, dans une entrevue, a été très sévère et méchant avec Ozzy Osbourne après sa mort. Fait que, oui, je comprends d'où ça vient. D'ailleurs, il s'est fait rappeler à l'ordre par l'essentiel de la famille Osbourne de façon très peu polie. C'était mérité. L'album Final Cut, c'est la suite de The Wall. Puis c'est là que tu vois qu'il y avait vraiment une fracture dans le groupe parce que de la façon qu'il est crédité, c'est marqué « Final Cut », un requiem écrit par Roger Waters et performé par le Pink Floyd. Tu vois?
C'est encore une preuve que Pink Floyd va perdurer, du moins dans ce qu'ils ont légué, que sur les textos 88-971-1021, c'est multigénérationnel.
Intemporel.
Vraiment.
Heureuse de le voir.
Yes. Très heureux de voir ça. C'est Denis Gravel, merci d'être passé dans notre show du midi en jase.
Merci,
on t'écoute tout à l'heure à 14h avec la belle gang de retour dans le Gravel, Véro et Audrey. Puis on se parle demain matin, 7h45, dans le Pit Stop.
Yes, sir!
Cool! Après la pause, Pascal, quand t'es à l'épicerie, là, tu te dis-tu, ouais, non, Caroline, c'est vraiment ça qu'ils me disent, c'est en rabais, c'est pas en rabais, ça?
Mais maintenant, je me suis fait vraiment avoir dans les premières années où ils nous faisaient ça, tu sais, deux pour un, mais c'est à l'achat de quatre.
Ben, c'est ça.
Puis après ça, ils disaient, c'est 1$ au lieu de 4 quand t'en achètes 75.
Ben oui.
C'était un peu frauduleux comme façon de
en
faire.
En plein ça. Puis là, voyons, non, comment ça qu'ils me disent que ce produit-là, les pâtes d'ours sont en spécial à 2,99 quand je les ai payés 2,99 la semaine passée, bien avant spécial.
Puis j'ai déjà vu un rabais qui était plus cher que le prix initial. Cela, je ne l'ai jamais compris.
Non, c'est ça. Bien, on va parler avec Justine Mercier, qui est journaliste d'enquête pour les coops de l'information. Elle a justement, avec son équipe, fait le tour d'énormément d'épiceries. Ils ont regardé ça, prendre en photo des étiquettes, reprend en photo. Et il y a trois gros constats qu'ils ont tirés qui font en sorte que... Oui, Pascal, on se fait avoir par l'épicerie puis leur rabais.
Puis vaut mieux le savoir.
Vaut mieux le savoir. Donc, immédiatement après la pause, c'est Justine Mercier qui va être avec nous pour parler de ces faux rabais à l'épicerie. Restez avec nous. On en jase sur Boulevard 102.1.